Ah, je n'ai pas d'explication parce que c'est plus fort que ce que je peux l'imaginer, mais il a vraiment un rôle initiatique très puissant, ce comte. Et j'ai pu le compter aussi et le faire compter, donc quand j'étais à Grasse, à des jeunes qui étaient en cinquième, puis de toutes les classes en fin de compte. Effectivement, les garçons s'en emparaient de façon un peu combative et les filles avaient aussi beaucoup d'intérêt pour ce compte-là, parce que la place de la femme, c'est pas un second rôle, c'est un rôle dans cette version en tout cas extrêmement de guide. Déjà Oriane qui va permettre à cet ours sauvage, avec sa puissance, sa beauté, mais de devenir humain à travers son fils. Donc elle apprivoise son instinct, sa force animale, sans la renier. Donc, Oriane a énormément d'importance parce qu'on dit qu'Oriane était tellement belle que tous les jeunes hommes voulaient l'épouser. Et avec beaucoup de délicatesse, elle savait les éconduire. Donc, elle a cette délicatesse. Après, il y a cette vieille qui va donner le chemin, qui va leur dire attention. Mais elle les connaît, elle sait qu'ils vont y aller. Donc, c'est une invitation avec une indication pour pouvoir aller dans cette aventure. Et il y a cette belle qui est enfermée par la malédiction. Et ce n'est pas la force, la malédiction. C'est le pouvoir magique. Donc, on est dans de l'alchimie, on est dans quelque chose de beaucoup plus complexe où la force n'a aucune utilité, finalement. Hein. C'est un peu les Monty Python qui s'entraînent à faire du karaté, tout ce que vous voulez, puis quelqu'un leur tire dessus et c'est fini. Donc, on est dans quelque chose qui rentre dans la magie. Et Jean de l'Ours, de par ses acquis, va puiser dans l'humanité, va puiser dans l'animalité, dans sa connaissance, dans sa puissance, et pour pouvoir se reconnecter profondément avec l'idée. Et ça va être tout ce travail d'affronter les dragons, d'aller à l'intériorité de soi-même, dans le fond de soi-même, hein, nous sommes notre pire ennemi, et de traverser tous ces démons intérieurs pour trouver le trésor qui est caché et libérer la malédiction. De l'humanité qui est prise par le mental, par l'ego, par voilà. Il y a toutes ces notions-là qui peuvent apparaître et en même temps, c'est un conte animiste, il y a toutes les sagesses, je pense que c'est un carrefour de beaucoup de sagesse, c'est pour ça qu'il touche encore les gens aujourd'hui, parce que tel que je le délivre aux jeunes aujourd'hui, ben ça les touche autant, je pense, que quand il a été créé, il a traversé les générations, il touche autant pourquoi il est universel. Parce qu'il nous parle de choses éternelles, de choses qui sont immuables et que malgré les sociétés, le monde qui change, qui va toujours nous parler des fondements de qui nous sommes. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ce conte qui est pour moi vraiment un conte d'initiation, hein, de grande sagesse et qui équilibre le féminin et le masculin en soi. Même si le féminin apparaît de façon discrète, qui n'est pas en premier plan, c'est lui qui guide ce héros vers son accomplissement, en fait, au final. Et toutes ces étapes. Alors, le chat aussi, j'aime beaucoup ce chat qui apparaît, qui est géant. Un chat qui paraît si doux, si mignon, et puis d'un coup qui peut se transformer en animal absolument dangereux et féroce. Donc, il arrive à le vaincre par la force, celui-là. Et le petit homme à tête plate, alors là, c'est un mystère, ce petit homme à tête plate. Il fait beaucoup rire les jeunes quand je le compte. Quand je le compte avec ces gens qui étaient de tout âge et de toute culture, c'est l'énigme. Qui est-il? Alors, il est nu à tête plate. Alors, le côté tête plate, là, ça veut dire que son cerveau n'est pas fait comme le nôtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est nu, ça veut dire qu'il a l'air, il est lui-même. Il ne triche pas, mais il est protégé par cette fameuse baguette de coudrier. Donc la baguette de coudrier, c'est la fameuse baguette qu'utilisent les grands magiciens. Hein. Donc on est dans quelque chose, selon comment elle est utilisée, elle peut tout détruire ou tout construire. Hein. Et ces gens qui s'en emparent. Donc il a d'un côté la barre qui fait 100 kilos, prouve qu'il est puissant et qu'il est fort. Et de l'autre côté, cette baguette qui est encore plus dangereuse que l'autre, puisque selon comment on s'en sert, on va obtenir vraiment des effets totalement différents. Voilà, il y a tous ces aspects. Alors, c'est une vision que j'ai eue, mais au fur et à mesure que je le comptais, j'avais l'impression que j'étais dans un vortex et que moi, je descendais dans le puits. Hein, mais je ne crois pas que je suis allée jusqu'au dragon. Peut-être j'en ai coupé certains, mais il y a d'autres larmes qui ont dû repousser quelque part que je n'ai pas vues. Et je crois qu'on pourrait le compter jusqu'à la fin de ces jours. En tout cas, en ce qui me concerne, et j'en aurais pas fait le tour. Donc, voilà, le jour où le printemps refleurira, eh bien, ce sera le jour où Jean de Lourdes aura réussi sa mission, quoi. Voilà. Donc, c'est un très, très beau conte qui regroupe pas mal de mythologies. Voilà ce que je peux en dire. Et mon fils est devenu grand et fort. Et je me suis dit, c'est grâce à Jean de Lourdes. Je ne sais pas, on verra. Le temps le dira. Le temps le dira. Voilà. C'était un témoignage, donc je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Claude Seignolle, oui. En fait, j'ai un peu regardé. Tous les contes qu'il y avait en Provence, Languedoc, Roussillon, etc., pour que ce soit proche de la culture que je connais, que ça soit proche de, ou plus proche de ce que de l'imprégnation que j'ai eue de mes ancêtres et tout ça, pour mieux le comprendre de l'intérieur, quoi. Et j'ai trouvé cette version que je trouve douce, et pas que, parce que quand même, il y a aussi la trahison, il y a aussi. Quand il décapite les têtes des dragons, il ne va pas savoir si c'est bien, si c'est mal. Il y va, quoi. Hein, il coupe les têtes. Hein. Donc, voilà.
Dans les versions que j'ai pu lire, effectivement, à chaque fois, les deux disent quoi. Alors que là, ils sont pardonnés.
Ils se mettent à son service, hein, parce qu'ils ont compris. Il y a eu un retournement de situation.
Dans beaucoup de versions, les deux personnes, les trois, les quatre, sont plus qu'à l'initiation, force brute. Mais Seignolle les aimait beaucoup, le personnage d'Ombre, beaucoup transformé, personnage.
Si on part du principe que les personnages sont des hommes, le fait que de l'ours il a vraiment atteint. La bénédiction
Après, c'est un Ouais, vas-y, parce que c'est pas facile, parce que ils entendent mal les échanges quand on parle, quand oui, parce que le micro va être mis, mais sinon quand les échanges se passent comme ça, ils en comprennent pas. C'est ce qu'ils me disent. Voilà, comme ça.
Mais alors, en fait, moi, ce que je pourrais dire par rapport au fait que ce soit chrétien, moi, je vois pas du tout de christianisme là derrière. C'est plutôt de l'animisme et des forces de la nature. Et il n'y a pas de jugement moral ou voilà, c'est quelque chose qui est un aboutissement de réunification. Et je ne vois pas en quoi c'est chrétien. Ce n'est pas plus chrétien qu'autre chose, quoi. Hein. C'est humain, voilà. C'est le parcours d'une initiation humaine.
Comme ça, voilà.
Moi, quand je pensais à la chrétienté, c'était le fait de tomber à genoux comme une grange, et la princesse qui est un peu, il y a ces images qui viennent de tomber à genoux, des fois il y a d'autres, il y a la Vierge qui apparaît, et tombe à genoux, à se pécher et pardonner, avec cette idée aussi de genoux. La référence aussi à la baptême, quelque chose qui est de cet ordre. Voilà. Mais après, voilà.
Ça peut être un parallèle, mais en fait, l'eau, c'est plutôt le monde des sentiments. Elle est très pure, elle traverse de la pierre cristalline. Et puis, on retrouve en Inde, par exemple, Angulimala le Terrible, où il y a Bouddha, donc ce n'est pas du tout les chrétiens. Et Angulimala, c'est un fou furieux qui tue tout ce qui est autour de lui. Et à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il garde un doigt, il veut avoir 1000 doigts autour du cou. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte. Et plus personne ne veut rentrer dans la forêt parce que tout le monde a peur d'un Angulimala le Terrible. Et Bouddha, dans sa jeunesse, passe par là et on lui dit « Ne passe pas par la forêt, viens Angulimala le Terrible, il ne reste qu'un seul doigt. » Il dit « Mais moi, je n'ai plus rien à faire de ce corps. Si je dois lui donner mon doigt, que ça lui fait plaisir, je suis prêt à me sacrifier. » Il rentre dans la forêt, il voit Angulimala. Et il lui dit, j'ai entendu dire que tu avais besoin d'un doigt, tu peux me tuer, prendre mon doigt, je te l'offre. Et là, Angulimala se met à genoux et dit, waouh. Et il devient un être éveillé. Et non, ce n'est pas tout de suite qu'il devient un être éveillé. Là, une petite épreuve encore. Le Bouddha lui dit, bon, ben, écoute, maintenant que nous sommes en face, pourquoi tu coupes des doigts? Il dit, parce que je suis en colère. Et toi, tu es là, je ne vais pas te tuer, puisque tu m'offres le doigt, j'en veux pas. Et il lui dit, eh bien, écoute, coupe une branche d'arbre. Angulimala coupe la branche d'arbre. Et Bouddha lui dit, maintenant, remets-la en place. Et l'autre dit, mais je ne peux pas la remettre en place. C'est trop tard, elle est coupée. Il dit, bah, tu vois, tu agis comme un enfant. Tu sais détruire, mais tu ne sais pas reconstruire. Et c'est là qu'il tombe à genoux. J'avais oublié la petite étape. Donc, il tombe à genoux et c'est là qu'il a trouvé l'éveil. Voilà. Et c'est Bouddha, ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Donc, je pense que ce sont des principes un peu universels qu'on retrouve dans toutes les cultures. Voilà. Hein. C'est pour ça que je reviens à ça, parce que c'est vraiment une culture opposée, puisqu'elle est, elle vient d'Inde. Hein.
En plus, ce matin, donc Bernard Sergent nous disait bien que c'était un des contes qui avait été le moins christianisé, voire pas christianisé du tout. Et ça, c'est une question intéressante. Ouais.
Quelque chose de complètement absolu. Finalement, est-ce que le christianisme, ce n'est pas une version de Colosse?
Ça pourrait, pourquoi pas.
Ça peut être la même chose. En tant qu'il y a une vierge.
Oui, on est quand même dans des chemins un peu différents.
Une surpuissance.
C'est-à-dire que pour moi, il y a la notion d'un récit initiatique et il y a la notion d'un récit dogmatique. Ça change beaucoup. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, le récit chrétien est un récit qui crée un dogme. Il crée une façon de penser le monde et une façon de voir. Ouais. Ouais. Oui. Oui, de toute façon, le Christ n'a jamais rien écrit. Hein, donc on peut pas
après, voilà, quand il va au désert, est-ce que c'est pas descendre dans la grotte?
C'est peut-être parce que c'est universel et qu'on le retrouve, c'est quoi que l'on fasse.
C'est universel. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Quels sont ses démons? Et oui, on parle de rédemption.
On a tendance à réagir. mais peut-être mieux. Il y avait une... okay, oui.
Bien, attendez la fin du propos pour réagir, parce que sinon, entre les micros, c'est compliqué.
Derrière.
Je ne peux pas faire l'image d'un enfant qui tombe à genoux devant Jean de Lourdes. Donc on ressent une gratitude tellement immense. Si on se laisse aller, on tombe à genoux. Quoi. On peut tomber à genoux devant un paysage. Pas forcément, il n'y a pas forcément une question qui est à juste la gratitude. Waouh!
Parce que je pleurais, quoi. Bon. Enfin, mais le. Mais...